cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 décembre 1991.
À propos du jugement et de l'appréhension, puisque nous en sommes là, est-ce que toute connaissance concrète du réel passe par une abstraction? Ça a été une grande, grande question parmi les scolastiques entre les scotistes et les thomistes. Il faudrait ouvrir là une grande parenthèse. C'est une question d'école, comme on dit. Mais c'est une question d'école extrêmement importante. On dit que pour les scotistes, on connaît le singulier en premier lieu. Et pour les thomistes, on connaît l'universel en premier lieu. En gros, c'est ça. Bien, ni l'un ni l'autre n'est vrai, vous comprenez? Les questions d'école, je les ai vues, moi, profondément de mon temps, on les voyait, on les étudiait avec Jean de Saint-Thomas. Il y a des tartines là-dessus, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de beurre, mais il y a des tartines. C'est intéressant que quelqu'un donne un peu de temps, mais évidemment, c'est en latin scolastique, latin de cuisine. C'est le latin qu'on parle à la cuisine. On a le droit de parler que de ce latin dans la cuisine. C'est assez particulier. En réalité, tout acte d'intelligence implique une appréhension. Tout jugement implique une appréhension. C'est ce qu'on va voir au terme. Or, l'appréhension a un mode abstrait. Et universelle. Donc notre connaissance intellectuelle s'éveille dans l'abstraction. C'est son mode particulier. Et ça, je crois que Saint Thomas a très bien vu ça, à la suite d'Aristote. Et je crois, contrairement à tout ce qu'on peut dire, c'est pas une interprétation thomiste d'Aristote, c'est Aristote lui-même qui a compris ça. Et Saint Thomas l'a redécouvert. Alors que les autres, non. Pourquoi? C'est très simple. Ils sont tous idéalistes et n'ont pas compris Aristote. C'est difficile, vous savez, pour quelqu'un qui est sorbonnard, c'est-à-dire formé à partir de Descartes, de redécouvrir Aristote. C'est quasi impossible. Plus facilement un hégélien redécouvrir Aristote qu'un sorbonnard ancien. Je crois. Je suis même persuadé. Parce que, avec Hegel, il est en face d'un regard philosophique qui va très loin. Tandis qu'avec Descartes, ça va pas très loin. Alors, quand on est habitué à aller très loin, on retrouve plus facilement quelque chose, quelqu'un qui va aussi très loin. Il y a une comme naturalité plus profonde. Il faudra voir ça au terme. On ne voit pas ça maintenant. Mais il faut y penser. Au plan critique, vous voyez, il y a une espèce de rencontre des philosophies extrémistes. L'aristotélisme est une philosophie extrémiste. C'est pour ça qu'on a tellement peur. Le néoplatonisme est une philosophie extrémiste. Hegel est une philosophie extrémiste. Mais au fond, c'est les génies, si vous voulez, qui vont toujours du côté extrême. In medio mediocritas, c'est pas génial. Aurea mediocritas, ce n'est pas génial. Mais ça, alors ça reste des gens qui, bon, une arête sur laquelle ils vont très loin. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de les étudier. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est nécessaire d'étudier Hegel. Ça, je crois. Parce que Hegel est génial, Marx ne l'est pas. Tandis qu'Hegel est génial. Il a quelque chose de génial. C'est intéressant d'étudier Plotin, parce que Plotin est génial. Platon l'est. Et Aristote aussi. Mais il n'y en a pas tellement, vous savez, auxquels on discernerait le... En disant, il y a quelque chose de génial, là. Vous n'allez pas dire que Gabriel Marcel est génial. Non. Philosophie bourgeoise. Très bourgeoise. Sartre serait plus facilement génial au plan philosophique. Parce qu'il a sur la négation des choses qui sont assez géniales. Oui. Et c'est toujours intéressant de voir. Pour moi, le génie philosophique, c'est quand on a. On va jusqu'au bout des exigences, sans s'arrêter. Parce que c'est quand même une recherche de vérité, ça. Ils peuvent se tromper complètement, ils peuvent être complètement d'à côté, mais il y a quelque chose. Et ça intéresse toujours de regarder. Le philosophe s'intéresse toujours à ces choses extrêmes. Parce que là, il découvre quelque chose qu'il ne découvrirait pas autrement. Alors, vous comprenez, toute connaissance, je dirais toute connaissance intellectuelle, concrète, du réel, passe par une abstraction. Mais pas toute connaissance concrète du réel. Parce qu'il y a justement l'estimative qui est une connaissance concrète du réel, mais sensible, pas intellectuelle. Donc elle n'implique pas une abstraction. Et c'est ce que Don Scott lui fait, parce qu'il ne distingue pas assez le point de vue sensible du point de vue intellectuel. Alors là, il y a un problème. Bon. Intéressant, on le reverra au terme. Donc, nous étions à caractériser ce qu'est cette opération de l'appréhension pour ensuite revenir sur les rapports exacts d'appréhension et de jugement. Et nous avons constaté qu'on est obligé d'accepter une opération antérieure, du moins une opération autre, disons, autre que le jugement. Et le langage l'exprime. Blanc, homme, animal. Il faut expliquer ses connaissances. Les cinq prédicats. Et les dix prédicaments. Nous connaissons, je dirais, quasi instinctivement, comprenez bien, quasi instinctivement, c'est pas instinctivement, mais c'est direct, la quiddité des réalités. Homme, Pierre est un homme. Réfléchissez, la première fois où vous avez dit Pierre est un homme, en réfléchissant sur ce que ça signifiait, est-ce que vous arriverez? C'est la question que j'ai posée à un psychanalyste freudien. Alors, il a levé les bras en l'air et dit oh, mais c'est quand même important. Puisque vous êtes dans le génétique, vous devriez pouvoir me dire à quel moment, quand vous avez un patient, à quel moment il a dit mon papa, il est un homme. À quel moment a-t-il dit ça? A-t-il pu dire ça? Signification de homme, espèce d'animal, c'est-à-dire animal. À quel moment on a dit ça? C'est très très difficile. Alors vous pouvez peut-être vous rappeler le moment où philosophiquement vous vous êtes posé la question. La signification de homme. Peut-être vous n'êtes jamais posé la question avant. curieuse quelquefois en racontant les lectures, n'est-ce pas? Alors on parlait de quelqu'un qui était très connu. Une fois dans sa vie, il a eu la connaissance de l'universel. Une fois dans sa vie. Et c'est vrai que peu d'hommes ont la connaissance de l'universel comme universel. C'est quand même important de comprendre que animal a une signification universelle, générique. Vous n'êtes jamais posé la question beaucoup, qu'est-ce que c'est qu'un genre? Qu'est-ce que c'est que l'universel? Qu'est-ce que c'est que l'être de raison? Et tout ça, ça se tient. La signification de homme, le problème de la signification, le problème de la signification de Pierre. Alors, et c'est pourtant à ce moment-là seulement que je comprends que l'éveil de mon intelligence se fait à travers l'appréhension. Et je dis bien le premier éveil. On le certifiera après, on essaiera de bien le comprendre, mais le premier éveil, mon intelligence s'éveille à travers une abstraction universelle dont je n'ai même pas conscience. Le blanc du mur. Pierre est homme. Je n'ai pas conscience de ce moment-là. C'est quasi naturel, cette abstraction. L'abstraction de l'universel, c'est quasi naturel. Du genre, de la différence spécifique, de l'espèce. Par où j'ai des définitions. Et donc, j'allais dire, l'abstraction universelle est congénitale à ma vie intellectuelle. Ça, je crois que je peux l'affirmer au plan critique. Au plan critique, je peux dire que je distingue ce que je connais en appliquant une représentation et ce que je peux connaître en appliquant une signification. Quelle différence entre la représentation et la signification? Je me représente une voiture. Me représente un petit singe. Quand on en a vu, c'est facile. Quand on n'en a pas vu, on a vu au moins des photos. Et dans Larousse, on a vu le singe Incomuni. On a vu. Petite représentation. Donc, je me représente. Se représenter, c'est justement que ce soit présent à mon imagination. Je me représente un chat. Puis-je me représenter homme? Non. Mais homme a une signification. Je vois donc une très grande différence entre le domaine de représentation. Sens qui représente et le problème de la signification. Je crois que c'est très important de bien signaler là tout de suite, puisque au fond la signification elle commence avec blanc, elle commence avec homme, elle commence avec animal. Vous voyez, simple. Dans toutes mes connaissances, il y a du singulier et de l'universel. Toutes mes connaissances intellectuelles. Toujours. Tu sais jamais. La connaissance de l'universel, elle est impure. Sauf en logique. J'ai jamais la connaissance du singulier à l'état uni, pur, non. Sauf l'estimative, c'est plus la connaissance intellectuelle. Et là, vous voyez tout de suite, hein, je me représente quelque chose de singulier. Et qu'est-ce que vous connaissez pour vous représenter telle réalité? C'est la réalité. Ah oui, je connais la réalité. Et cette réalité est toujours singulière. Ah oui. Alors l'universel, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ah, c'est parce que cette réalité singulière, je la connais intellectuellement. Je dis, cette réalité est un homme. Parce que je peux me représenter un homme. Tel homme. Vous voyez? Donc, il y a une signification dans la représentation. Et c'est peut-être ça le propre de la connaissance symbolique. Le symbole implique toujours une représentation et une signification. Les deux sont liés. C'est propre du symbole. Et la connaissance symbolique est première génétiquement. C'est vrai. Un gosse connaît symboliquement. Et je continue de connaître symboliquement. La connaissance symbolique est au point de départ. Elle est au terme. Et d'une certaine manière, elle enveloppe toute ma connaissance intellectuelle. La connaissance symbolique a cette chose de tout à fait particulière, c'est qu'elle est au-delà de l'abstraction. Elle implique toujours une représentation. Et souvent, une représentation affective. La connaissance symbolique est très affective. Et en même temps, c'est une connaissance intellectuelle qui implique une signification. Alors voyez, quand on se pose la question, est-ce que le thomisme ou le scotisme commence par l'universel singulier? Mais non. Posez la question de l'homme, pas du thomisme. Est-ce que l'homme connaît en premier lieu une connaissance symbolique? Oui. Le gosse, quand il s'amuse, il vit dans un symbole, un monde symbolique. Il vit dans un monde symbolique. Elle est l'école. Il quitte ce monde symbolique. Il commence à parler. Il commence à lire. Alors c'est difficile de lire symboliquement. Donc il faut dépasser le symbole et puis arriver à une lecture de signes qui ont une signification. Et surtout pas de représentation. Mais vous voyez, alors, ce qui serait très intéressant, c'est de voir là le génie différent des langues. Le génie particulier de la langue chinoise comparativement aux langues indo-européennes. Là, il y a vraiment une différence. Il n'y a pas de différence d'intelligence. Il y a une différence dans la manière d'exprimer, la manière de communiquer. Alors là, oui. Mais quand on dit qu'il y a une différence d'intelligence, mais non. Entre un Africain et un Européen, y a-t-il une différence d'intelligence? Mais non. Il y a une différence de communiquer. Ah ça oui. La vie symbolique est différente d'un petit Africain et d'un Européen. Ça j'en suis sûr. Et d'un petit Chinois. Mais il y a un patrimoine qui est foncier. Ça c'est le début de la connaissance. Donc, ceci c'est important, oui, parce que je suis au-delà de tout ça. Quand j'essaie de comprendre cette première opération de l'intelligence qui implique une signification universelle. Je connais chien, je connais chat, je connais homme. Tout ça, ça dit signification. Ça dit quelque chose intellectuellement. Et quand je prends un mot absolument inconnu, ça ne me dit rien. Ah non, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors on explique. Ah oui. Et l'explication fait toujours appel à une expérience. Toujours. Une expérience de la réalité. Donc, il y a cette première opération, il y a cette opération qui m'apparaît élémentaire, que j'appelle appréhension. Cette appréhension, si je pousse un tout petit peu, cette appréhension se fait selon un mode d'assimilation. Je connais homme. En connaissant homme, il est présent à mon intelligence. Il est présent à mon intelligence à l'intérieur de ma pensée. Dans ma pensée, la signification de homme est présente au plus intime de mon intelligence. Quand je pense homme, il a telle signification, une signification abstraite, une signification réelle. L'abstraction ne supprime pas le réel, mais elle me donne le réel selon un mode particulier. Qui est un réel qui n'est plus existant comme tel, qui n'est plus individuel comme tel. C'est un réel au niveau de son intelligibilité, au niveau de sa signification. Et je précise, au niveau quantitatif. C'est pour ça que je peux dire que toutes mes appréhensions saisissent l'acuité des réalités. Et cette acuité peut avoir un mode abstrait, au-delà de tout singulier, au-delà de toute réalité. C'est au-delà de l'affectif. Puisque c'est au-delà du singulier existant. C'est une signification pure. Il y a un mode universel. Ça, je crois que nous pouvons saisir là, et je dis un mode universel qui implique une assimilation. Et cette assimilation est une assimilation intentionnelle. Ah, alors, ici, il s'agit de s'arrêter un instant. Une assimilation intentionnelle. Qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire une assimilation intentionnelle ? J'oppose cette assimilation à l'assimilation réelle. Vous n'avez qu'à penser tout de suite et vous allez tout de suite comprendre immédiatement. Ça peut arriver que quelquefois on a dû voyager la nuit. On arrive dans un petit bled, très tôt, 4h du matin. On a faim, on a marché toute la nuit. Maison qui est allumée, la maison du boulanger. Puis on passe là, quelle odeur extraordinaire. C'est à 4h du matin qu'on le sent bien. 4h30. En été, 4h30, je crois. En hiver, peut-être 5h. Ou 4h30. Ça sent très très bon. C'est merveilleux. Vous avez faim. Alors votre odorat vis-à-vis de ce pain chaud est merveilleux. Vous vous représentez ça immédiatement. C'est une assimilation intentionnelle. C'est un petit déjeuner intentionnel. Le boulanger s'aperçoit, parce que ce sont des braves gens les boulangers. Ils sont des gens du pain. Donc ce sont des très braves gens ordinairement. Le boulanger s'aperçoit qu'il y a un pauvre type qui est là, qui prend son petit déjeuner. Et lui dit, vous avez faim? Un peu. Et lui tend un morceau de pain frais, évidemment, qui sort du feu. Alors vous le mangez. Et là, vous assimilez biologiquement. C'est pas tout à fait la même chose. Mais deux assimilations tout à fait différentes. Mais toutes les deux sont des assimilations. Qu'est-ce que c'est qu'assimiler quelque chose? C'est faire que quelque chose qui était extérieur à moi devient moi. Quelque chose qui était loin de moi devient quelque chose de moi. On ne peut plus arracher de moi cette sensation extraordinaire que j'ai quand j'ai senti un petit pain qui était en train de... Et puis, quand j'ai pris mon petit déjeuner, on va pas venir vous le retirer. J'ai assimilé. Je l'ai mangé. Manger quelque chose, c'est se l'assimiler biologiquement. Penser à quelque chose, c'est se l'assimiler intentionnellement. Alors, j'ai tous les degrés d'intentionnalité. J'ai le degré d'intentionnalité de l'odeur du petit pain. J'ai une intentionnalité très sensible. Je lorgne à travers la fenêtre pour voir le pain qui sort du four. Tout chaud. Merveilleux de couleur. Je l'assimile par la vue. Mais c'est surtout l'odeur qui est importante. Et quand on me le donne, je le touche. Je l'assimile par le toucher. Puisque l'intentionnel peut avoir un mode universel. Et c'est vrai, quand quand on est devant des malades qui sont tellement pris par ça au bout d'un certain temps. Aussi, où est le réel? Je voudrais bien le toucher, le réel, et le distinguer. Donc l'intentionnel, cette assimilation intentionnelle, caractère intentionnel et intellectuel, caractérise le mode particulier de la connaissance, de l'appréhension. Première constatation, c'est que cette assimilation intentionnelle est purement en moi. Je peux l'exprimer, je peux la dire, mais elle est en moi. Elle est purement immanente. Puisqu'il y a assimilation, il y a donc nécessairement détermination. Il y a donc une forme. Une forme, détermination. J'assimile chien. J'assimile blanc. J'assimile animal. C'est déterminé, ça a une signification. Puisque c'est une signification, il y a une détermination. Il y a donc une forme. Une eidos. Il y a donc une forme. Cette forme est au point de départ et elle est au terme. Dans toute assimilation, la détermination est au point de départ et au terme. Quand vous assimilez le pain que vous mangez, ben il est évident que pour que vous puissiez assimiler le pain, il fallait que le pain soit au point de départ. Et au terme, il est vécu. Il est assimilé. Plus ou moins digéré. Mais il est assimilé. Donc, vous assimilez du pain. Autre chose, assimiler de la viande, assimiler un fruit, assimiler un médicament, tout ça. Et est-ce que c'est l'aliment qui caractérise l'assimilation, ou est-ce que c'est votre vie végétative qui caractérise l'assimilation? Un chien n'assimile pas comme un homme. C'est pourtant toujours une assimilation biologique. Vous allez me dire, parce qu'ils ne mettent pas la même nourriture. Je peux prendre la nourriture du chien. Si je prends la nourriture du chien, le chien avale ça. Avec une rapidité extraordinaire. Et puis il n'est pas malade. Moi, si je faisais ça, je serais complètement malade. D'abord, cette nourriture. Nourriture de chien. C'est le cas de le dire. N'est-ce pas ? Si j'avais très très faim, comme l'enfant prodigue, je crois que je prendrais. Mais quand j'ai pas très très faim, j'aime mieux que le chien le mange à ma place. J'aime mieux. Donc vous voyez, c'est très curieux. L'assimilation biologique dépend de ma faculté, de mon pouvoir d'assimiler. Et dépend de l'aliment. Ça, c'est sûr. Cette assimilation intentionnelle, est-ce qu'elle dépend de mon intelligence ou elle dépend de ce que j'assimile? Ah, voilà une question très très importante. Parce que c'est là où on verra tout de suite les a priori, les projections. Est-ce que ça dépend de ma capacité de connaître, donc de mon os, de mon intelligence, ou est-ce que ça dépend de l'objet que je connais? Gardez l'exemple du chien devant sa nourriture et de vous devant la nourriture du chien. L'assimilation végétative dépend de ma capacité végétative d'assimiler et dépend de la nourriture que j'assimile. Du reste, c'est ce que tout de suite vous posera la question du médecin si vous êtes complètement malade. Qu'est-ce que vous avez mangé? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez mangé? Parce que, en fonction de ce que vous avez mangé, on va voir votre maladie. Vous êtes tombé malade, c'est indigeste au possible. Et pire, ça n'a pas eu beaucoup de dégâts. Certains, au contraire, étaient faibles, très faibles. Ou alors, ça a eu beaucoup de dégâts. Ça les a conduits presque à la mort. Vous voyez comme c'est curieux. Dans l'assimilation, il n'y a pas que le facteur aliment. Il y a le facteur de savoir qui vous êtes. Parce que ces champignons vénéneux, le chien les aurait avalés, je vous affirme, sans aucun danger. Mais certains champignons,